Bonsoir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de l'expiration des puisières jeudi 1er août à 16h et l'ultimatum des 48 heures lancé par la MONUSCO à toute personne détenant une arme et ne faisant pas partie des forces nationales de sécurité autour de la ville de Goma et Sake. Comme deuxième sujet, nous parlerons du gouvernement de la RDC qui a déclaré avoir transmis le 25 juillet dernier par voie diplomatique à la République du Rwanda 3 mandats d'arrêt internationaux qui visent 4 de ses ressortissants membres du M23 réfugiés sur le territoire rwandais. Tels sont les thèmes de la tribune de la presse de ce soir. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Ghislain Louboula, le rédacteur en chef du journal La Prospérité. C'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Ghislain Louboula.
Bonsoir, merci.
Nous sommes également avec Joachim Diana Gikupa, directeur de publication du journal La Colombe, qui paraît aussi à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana Gikupa.
Bonsoir confrère.
Et enfin, en direct de Kisangani en province orientale, nous sommes avec Clément Mangoubou, éditeur du journal Mangaza. Bonsoir Clément Mangoubou.
Bonsoir confrère.
Bienvenue à tous dans cette émission. L'expiration de l'ultimatum des 48 heures de la MONUSCO à toute personne détenant une arme et ne faisant pas partie des forces nationales de sécurité autour de la ville de Goma et Sake de déposer les armes et la délivrance par le gouvernement congolais des 3 mandats d'arrêt internationaux qui visent 4 de ses ressortissants membres du M23 réfugiés sur le territoire rwandais figurent parmi les sujets largement commentés par les journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
La presse de ces jours est revenue sur l'issue de l'expiration de l'ultimatum des 48 heures lancé par la brigade d'intervention de la MONUSCO contre les groupes armés et toute personne de déposer les armes et d'intégrer le processus DDR. Expiration de l'ultimatum lancé aux groupes armés au Nord Kivu, le M23 réfractaire à l'ultimatum de la MONUSCO indique Africa News. L'ultimatum des 48 heures lancé aux groupes armés au Nord Kivu de déposer les armes et d'intégrer le processus DDR a expiré hier jeudi 1er août 2013 à 16h heure de Goma. Pendant que la MONUSCO s'est dit avoir été contactée par plusieurs personnes détenant des armes et prêtes à les rendre, seul le mouvement du 23 mars a décidé ouvertement d'affronter les éléments de la brigade spéciale de la MONUSCO. Jeudi à Goma renchérit par ailleurs la tempête des tropiques. Le commandant brésilien de la force de la MONUSCO, le lieutenant général Carlos Alberto dos Santos, s'adressant à la presse, est quelque peu revenu sur ses déclarations va-t-en-guerre des menaces contre les groupes armées et les individus qui ne déposeraient pas leurs armes dans cette zone de sécurité. Il a nuancé ses propos en disant qu'il ne s'agissait pas d'un ultimatum, mais d'une mesure visant à permettre à toute personne détentrice d'armes de guerre à les déposer volontairement et à participer ainsi à l'instauration de la paix dans cette région. À sa une, l'avenir fait savoir, dans une déclaration politique, le MSR soutient l'ultimatum de la MONUSCO. Faut-il s'attendre à des combats maintenant que l'ultimatum a expiré, s'interrogent ses partis politiques. La situation qui traverse la RD Congo n'épargne aucun Congolais épris de paix et d'amour de son pays. Nombreuses sont des initiatives qui vont dans le sens d'apporter un soutien moral et financier aux vaillantes FRDC. C'est ainsi que le mouvement social pour le renouveau MSR en sigle vient de faire une déclaration politique pour soutenir l'ultimatum de l'ONU sur les forces négatives. La presse a aussi fait état des mandats d'arrêt lancés par le gouvernement au sujet des responsables du M23. Le gouvernement de la RDC déclare avoir transmis le 25 juillet dernier par voie diplomatique d'usage à la République du Rwanda 3 mandats d'arrêt internationaux qui visent 4 de ses ressortissants réfugiés sur le territoire rwandais. Ces mandats concernent Jean-Marie Runiga, président du M23, le colonel Baudouin Garouillet, général de brigade autoproclamée du M23, le lieutenant-colonel Eric Badegué, colonel autoproclamé du M23 et enfin le colonel Zimurinda Innocent.
Merci beaucoup Guy Maté pour cette revue de presse. Ghislain Louboula, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal La Prospérité. Et en dehors de nos sujets du jour, hier, c'était la célébration de la fête des parents. Et tous les cimetières de la capitale étaient remplis de monde venu se souvenir de leurs disparus. Un petit commentaire par rapport à cette information.
Enfin, c'est une bonne chose que On se souvienne un peu des morts, c'est une bonne chose pour le parent de s'y reposer aussi. C'est une fête qui est reconnue au niveau de notre pays. Mais je crois que c'est ce que nous devons dire, c'est plutôt amener les parents à prendre conscience par rapport à leurs responsabilités, parce qu'il ne s'agit pas de célébrer la fête, on la célèbre comme ça, il y a aucune organisation, mais je crois qu'il faudra saisir cette occasion-là pour organiser de séances, des cérémonies qui puissent amener les parents à comprendre leur mission, parce qu'en fait, si nous voyons dans la société tout ce qui se passe avec la délinquance, les couloirs, tout ça, ça attire parce que il y a une rupture au niveau de liens entre les parents et les enfants, et donc c'est une occasion pour amener les parents à réfléchir.
Merci beaucoup, Jetlin Louboula. Joachim Diana, vous êtes éditeur et directeur de publication du journal La Colombe. Un petit commentaire par rapport aux autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine.
Ah oui, j'aimerais parler également de cette fête. Et qui est divisé l'avant-midi, on célèbre les parents morts et l'après-midi les parents vivants. Mais c'est le problème qui se pose pour les parents morts. Il y en a qui n'ont plus de cimetière. Vous allez par exemple au cimetière de Kitambo où on enlève la première tombe, des ossements, on enterre une autre personne. Il y a des cimetières désaffectés. Organiser une telle fête des parents suppose qu'il faut organiser les cimetières, il faut que les cimetières soient possibles. Quand vous allez à Kimbanseke, vous ne pouvez même plus vous reconnaître où est-ce qu'on avait enterré votre ancêtre. Nous avons une belle-mère qu'on a enterrée là-bas, mais on ne sait plus retrouver le cimetière. Donc il faudra peut-être amener cela au niveau de la symbolique, mais aller effectivement au cimetière, c'est une chose difficile à Kinshasa où les cimetières sont aussitôt, 5 ans après, désaffectés.
Oui, Clément Mangoubou, vous êtes éditeur du journal Mwangaza, un hebdomadaire qui paraît à Kisangani. Quelle est l'actualité qui est à la une aujourd'hui à Kisangani dans votre province?
Merci beaucoup, confrère. L'actualité aujourd'hui à Kisangani, c'est cette nouvelle polémique inquiétante entre le gouvernement provincial et la Ligue de football de la province orientale. Alors que le gouvernement Bamanissa a déclaré et croyait avoir mis fin à une précédente polémique avec les dirigeants de la Fédération des entreprises du Congo, section de la province orientale, voici qu'une nouvelle polémique autour de la gestion et de la maîtrise des affaires sportives vient de faire surface entre le gouvernement provincial et la Ligue de football de la province orientale qui accuse ce gouvernement de maladresse et de manque de lucidité dans les dossiers de l'AS Nika, l'équipe représentative de la province orientale, au dernier tournoi à Bukavu, où les joueurs ont voyagé sans bien retour, et ces joueurs ont trimé à Bukavu même, et ensuite à Goma, où ils ont broyé du noir, avant d'être rapatriés à Kisangani par les mêmes gouvernements, après des souffrances intenses et humiliantes. Alors la polémique est en train d'enfler, après celle avec la Fédération des employés du Congo, et la population, l'opinion ne comprend plus pourquoi il doit y avoir des polémiques entre un gouvernement établi et les autres organes de la province.
Ok, merci beaucoup Clément Mangoubou. Sans transition, nous passons à notre premier thème de ce soir. L'ultimatum adressé aux groupes armés par la MONUSCO de remettre les armes a expiré hier à 16h, heure de Goma. La mission onusienne se réjouit du calme qui s'observe sur le terrain. Pour son porte-parole intérimaire, cette mesure a été prise dans le but de sécuriser la zone de Goma-Saki et ses environs et protéger ainsi plus d'un million d'habitants parmi lesquels des déplacés. On écoute Carlos Araujo au micro de Michel Kifindangoy.
La MONUSCO est satisfaite de la réaction provoquée par la création de cette zone de sécurité autour de Goma, mais il est un peu tôt pour dresser un bilan de la mesure. Je pense que c'est très important de souligner que la zone de sécurité n'est pas une opération militaire offensive et qu'elle ne cible pas des groupes armés spécifiques. Elle a pour principal objectif d'assurer la protection des populations civiles en accord avec le mandat de la MONUSCO. La zone vise aussi à stabiliser la situation autour de Goma pour donner une chance à la recherche d'une solution politique pour le conflit. Avec la fin du délai de 48 heures, la MONUSCO, en appui au FRDC, entreprendra des patrouilles pour s'assurer que des armes ne sont pas détenues par des personnes non autorisées.
Joachim Diana Gikupa, vous êtes directeur de publication du journal La Colombe. Comment est-ce que vous avez accueilli cette demande de la MONUSCO et bien sûr l'expiration de cet ultimatum que la MONUSCO avait donné à ses corps armés?
Lorsque j'écoute la déclaration que nous venons de suivre et que je me remémore l'ultimatum, je constate que c'est le jour et la nuit. Et je constate qu'effectivement, il n'y a pas communication où la MONUSCO dit quelque chose et qui est comprise autrement. Il faudra qu'elle améliore sa communication. Parce qu'en fait, lorsque l'opinion a appris que 48 heures, il faudrait que les forces, les groupes qui ont des armes tout autour doivent les remettre, ou sinon ils seront forcés à le mettre, à être désarmés des forces. C'est une désarmer quelqu'un qui est armé des forces, c'est une opération militaire. Je ne vois pas comment on peut aller désarmer quelqu'un qui est armé et aller le désarmer avec des fleurs. Alors, c'est pourquoi nous pensions, les gens ont cru dans l'opinion que c'est l'occasion ou jamais pour que la brigade internationale se jette dans l'eau. Mais jusque-là, c'est de l'ambiguïté. Lorsque, par exemple, la MONUSCO estime que le problème, c'était de repousser ces gens dans une zone de sécurité. Mais les gens qui sont allés au-delà de cette zone de sécurité, ils ne sont pas allés dans le désert. Ils sont toujours au Congo. Là où ils sont allés, il y a la population à protéger aussi. Donc, on ne doit pas nous donner l'impression que la population se trouve seulement à Goma. Et c'est Goma qu'il faut sécuriser et tout ça. Il faut aller plus loin que ça. Et là, j'ai suivi sur d'autres radios.
Goma, bien sûr, ce n'était qu'une première étape.
Oui, mais tout à fait. Et c'est pour lorsqu'on dit que ce n'est pas une opération militaire. Donc, c'est qu'après, ça sera des patrouilles qui s'arrêteraient sur cette zone. Mais c'est ce que nous avions cru, parce que nous étions de bonne foi, que en fait, l'ultimatum, c'est le piston, et qu'on va aller plus loin. Mais on constate que la déclaration pour montrer que non, ce n'était pas une opération offensive, c'était... Alors on constate que ce n'est pas la brigade d'intervention, mais c'est plutôt la MONUSCO dans sa mission traditionnelle de protection de la population, même si cette protection, l'opinion ne comprend pas. Comment on peut protéger une population contre des groupes armés si on ne traque pas ces groupes armés qui la menacent? Je pense que la meilleure protection de la population, c'est de traquer ceux qui ont des armes, ceux qui menacent cette population-là. Bon... nous sommes toujours de bonne foi que la guerre est une stratégie. Que ça, c'est une stratégie. On n'a pas à apprendre à la MONUSCO qu'il y a d'experts militaires, tout ça. Ils ont peut-être une stratégie, mais parce que ce que nous attendons, c'est que le groupe soit neutralisé.
Oui, Ghislain Louboula, un petit commentaire par rapport à la fin de cet ultimatum de la MONUSCO.
Oui, je note quelque chose. C'est une sorte de contradiction. Parce que je ne sais pas si vous pouvez réaliser la joie qui a animé les Congolais quand la MONUSCO a lancé cet ultimatum. On s'est dit, bon, cette fois-ci, ça y est, je crois qu'au niveau de cette première étape, on pourra, disons, réduire la capacité de ces groupes armés. Mais voilà, la MONUSCO s'est dédiée par le biais d'un responsable qui dit, non, il n'est pas question d'attaquer. Mais la récupération des armes, on ne va pas les faire auprès des civils. Les civils n'ont pas assez de problèmes. Et ça, c'est une opération de routine. La police, même la police nationale peut faire ce travail-là. Mais on a affaire à des bandits, à des groupes armés qui sont bien structurés. Et je crois qu'il faut mettre en place des mécanismes, mettre en place une politique pour pouvoir réduire ces forces-là. Mais quand la MONUSCO dit, bon, écoutez, c'est pas une attaque, bon, on essaie un peu de revoir la politique qui a été annoncée au préalable. Et on s'est dit, bon, cette fois-ci, on va évoluer par... on va essayer de tourner, on va mener des opérations de routine comme ça se fait ici à Kinshasa. Mais là, c'est une zone opérationnelle. C'est une zone opérationnelle. Monsieur Diana l'a dit ici. Il a dit que mais vous ne pouvez pas aller jeter des fleurs à ces bandes armées. Il faudra mettre en place des structures, des mécanismes, une politique appropriée pour pouvoir récupérer les armes. Et là, c'est un affrontement, et c'est ce qu'on attend en fait. C'est vrai qu'au-delà, la philosophie de la MONUSCO, c'est une mission de paix, mais face à des gens qui sont en train de violer, de tuer, de torturer, et vous ne pouvez pas vous dire qu'il faut y aller en les cajolant. Je pense qu'il faudra repenser la politique à ce niveau-là, la politique militaire.
Oui, Clément Mangoubou, comment vous analysez en fait cet ultimatum que la MONUSCO avait lancé et son expiration, bien sûr?
Oui, nous avions tous salué cet ultimatum de la MONUSCO et nous pensons que c'est tout simplement une démarche pour constater qu'il n'y a plus d'armes dans la ville de Goma et aux alentours après la brillante victoire des FARDC sur les terrains, après les avancées des FARDC sur les terrains. Parce que peut-être que la MONUSCO vient encadrer les actions des FARDC sur les terrains des hostilités. Mais je me dis que cela doit être interprété comme des dispositions de vigilance, tout simplement, pour prévenir et empêcher des incursions ou dans l'insécurité qui règne dans une zone nettoyée, dirais-je, par les FARDC. Mais moi, je me dis que là, il faut faire attention, parce que nous avons un cas qui s'est gagné en 2002. La MONUSCO avait tapé la main sur la table pour dire qu'il faut démilitariser la ville. On a appelé les Rwandais, les Ougandais, on a démilitarisé la ville, mais quelques jours après, c'était la guerre de 6 jours qui a causé un océan de sang dans la ville. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que la MONUSCO veut concrètement? On ne peut pas faire des détails avec des groupes armés comme ceux-là. Déjà, les M23 dit qu'il n'est pas être concerné par cet ultimatum. Mais moi, je pense que il faut faire un peu comme au Mali. La France est allée au Mali sous le couvert des Nations Unies, mais la France n'a pas fait des détails. Hein. La France a fait un travail avec l'arsenal qui est là, avec les moyens qui est là. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'accalmie, de paix. On a nettoyé les forces d'agression.
Clément
Mais aujourd'hui, la MONUSCO se révèle de plus en plus comme une machine lourde, une machine hésitante et une machine qui distrait un peu. Ce n'est pas normal. Attendons la brigade d'intervention qui va affronter ces forces-là au lieu de chercher à distraire l'opinion. Moi, je pense que là, c'est dangereux. Parce que les gens qui détiennent les armes, les confrères Diana l'a dit, on ne va pas verrer avec des fleurs. Non, ils se défendent. Et déjà, l'attitude ambivalente du président ougandais au sommet de la CIG à Nairobi montre que les gens ne sont pas prêts à déposer les armes là-bas, parce que les M23 bénéficient aussi de l'appui de l'Ouganda.
Clément Mangoubou, l'objectif en fait de cet ultimatum, c'était la création d'une zone de sécurité autour de Goma et des Sake. Et vous ne pensez pas que le fait que cette zone soit créée soit déjà une avancée assez positive?
Je crois comprendre qu'avec l'avancée des FARDC qui a déjà quitté Goma et ses environs pour aller plus loin, il y a une sorte de sécurité qui s'est créée. À moins que la MONUSCO cherche aujourd'hui à ratisser pour voir qui est force négative, qui détient des armes et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là pour l'indiquer au FARDC. Mais je crois qu'au stade actuel, la MONUSCO doit plutôt faire en sorte que la brigade d'intervention intervienne effectivement pour mettre hors d'état de nuire ces groupes armés. Les groupes armés, on ne les localise pas facilement et ils ne viendront pas de bon cœur déposer les armes. Ce ne sont pas des enfants de cœur.
Oui, merci beaucoup Clément Mangoubou. Joachim Diana, on sait bien que à la fin de cet ultimatum de la MONUSCO, il y a l'un des groupes armés, bien sûr, le M23, qui s'était montré totalement opposé à cette démarche. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas craindre à ce que cette région soit de nouveau à sang?
Oui, mais tout à fait. Il y a de grosses inquiétudes. Et nous l'avons toujours dit dans notre rédaction que la MONUSCO est très bien informée. La MONUSCO, c'est une mission de l'ONU. l'ONU a envoyé des experts à l'est de la République démocratique du Congo. Les experts de l'ONU ont démontré noir sur blanc que le M23 c'est une création rwandaise. C'est qu'il n'y a pas, donc, pour utiliser l'expression du patriarche Hérodia, le M23 c'est la fumée dont l'Ouganda et le Rwanda constituent le feu. Donc, vous ne pouvez pas combattre la fumée sans éteindre le feu. Donc, si la MONUSCO croit qu'elle a devant elle, ou la communauté internationale croit qu'elle a devant elle une rébellion congolaise authentique qui s'appellerait M23 et avec laquelle il faut, contre laquelle il faut se battre, la MONUSCO fera échec. Mais si on intériorise, on est sincère, on estime sincèrement que le M23, comme les experts de l'ONU l'ont démontré.
Mais Joachim Tiana, vous voulez cibler le Rwanda et l'Ouganda?
Mais tout à fait, tout à fait. Ce sont les experts de l'ONU qui ont démontré, ce sont eux qui ont créé le M23. Ils l'ont créé. Mais si vous êtes en train de combattre le M23, c'est comme vous êtes en train de chercher à combattre la fumée et vous laissez le feu couver. Le feu qui couvre va toujours continuer à produire la fumée, alors que ça ne se terminera jamais cette guerre-là.
Et quelle pourrait être la piste de solution?
La piste de solution, nous savons que l'ONU a aujourd'hui M. Taylor, qui est à la CPI, pour avoir soutenu une rébellion dans un autre pays. Mais Kagame, hier, le confrère à Kisangani l'a rappelé, le langage de Museveni démontre clairement que ces gens-là, ils ont créé leur entreprise, qui est le M23, ils n'entendent pas tomber en faillite aujourd'hui et ils le soutiendront. Mais il faut tout simplement que la communauté internationale utilise le langage de force. Je le dis, le jour où il sera démontré que le gouvernement congolais a organisé des groupes pour aller attaquer le Rwanda, ces jours-là, ça sera le bras-le-bas. Tout le monde entier, et même si ça tombe à 6h, à 8h, toute la coopération sera coupée, et ainsi de suite, les mandats d'arrêt à la CPI seront lancés. Mais pourquoi ne les fait-on pas lorsqu'il s'agit de l'Ouganda et de le Rwanda, qui nous ressemblent comme c'était des enfants gâtés de la région, contre lesquels on ne peut rien faire? C'est comme les experts qui disent que c'est un peu comme l'Israël dans le monde arabe, qui peut tout se permettre et qui a le droit de l'exception contre tous les crimes possibles qui sont punis ailleurs, mais lui, on ne doit pas les punir au nom d'une exception divine ou quoi, on ne sait pas.
Oui, Ghislain Louboula, une petite réaction par rapport aux propos de Joachim Tiana.
Non, en fait, on pourra peut-être évoluer sur la même longueur d'onde, parce que il faut savoir que la situation est grave sur le terrain. Grave sur le terrain, mais quand la MONUSCO intervient pour placer une zone de sécurité à Goma et à Sake. Mais vous savez, même ici à Kinshasa, il y a des opérations de routine de la MONUSCO. On voit, ils circulent, ils sillonnent sur les grandes artères, mais à l'intérieur, dans les fonds fins, il n'y a rien. Il y a des crimes qui se commettent, il y a des infractions qui se commettent, c'est vrai. Que pour des infractions mineures, il y a la police qui doit intervenir. Mais là, nous sommes dans une zone opérationnelle. Zone opérationnelle. Et quand vous lancez un ultimatum, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a certains délinquants qui pouvaient ramasser les armes, ça et là, et qui sont prêts à les restituer. Ça, c'est une bonne chose. On salue ça. Mais les M23, eux, ils ont dit carrément qu'ils ne reconnaissent pas cet ultimatum-là. Mais pour ces gens-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à les traiter de la sorte pour dire, non, écoutez, c'est une zone de sécurité. Non, moi, je crois qu'il faut mettre en place des mécanismes. Il faut utiliser la force. Il faut utiliser la force. Et la brigade d'intervention, saluée d'ailleurs par tous les Congolais, l'objectif, c'était de voir cette brigade-là venir imposer la paix. Venir imposer la paix. Venir imposer la paix, attaquer les groupes armés, éventuellement avec l'appui des Noé FARDC, d'ailleurs, qui font preuve sur le terrain aujourd'hui, c'est salué par tout le monde. Mais je crois que la MONUSCO doit accompagner cet effort-là, en dotant aussi les FARDC, en les accompagnant par des moyens conséquents pour qu'ils puissent effectivement aller.
Excusez-moi,
si je peux aller au bout de ma pensée, j'ai dit permettre à ce que les FARDC qui sont au front, pendant qu'ils sont en train de récupérer des territoires, qu'il y ait certaines opérations qui évoluent parallèlement. Parce que vous savez, une zone de sécurité, mais les M23 peuvent se déployer au-delà de cette zone de sécurité et continuer à causer des dégâts, à tuer. Et donc, s'il faut saluer ce premier pas, mais il faut pousser la MONUSCO à aller plus loin. À aller plus loin. Et le plus rapidement possible. Parce qu'on sait que l'année prochaine, peut-être qu'il y aura des élections. Il faudra que cette partie-là soit pacifiée pour qu'on organise finalement les élections.
Mais Ghislain Loboula, en vous suivant tout à l'heure, vous privilégiez la solution militaire. Mais il y a une certaine partie de l'opinion qui pense que la solution n'est pas forcément militaire. Il faut privilégier aussi des solutions politiques et diplomatiques. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Mais ça se fait concomitamment. Vous savez, la solution militaire, c'est aussi un moyen pour régler la crise. Il y a des solutions politiques. Combien de fois il y a eu des négociations? Il s'est avéré que les M23 sont loin de pouvoir comprendre le langage politique. Ils sont loin de pouvoir comprendre le langage diplomatique qui se fait. Et donc, on peut utiliser une autre alternative, c'est celle de la force. Et donc, il faut mener concomitamment les trois actions pour amener ces gens-là à fléchir leur position.
Oui, Clément Mangoubou, doit-on privilégier aujourd'hui la solution politique ou militaire?
Bon, moi je crois qu'il faut aller sur les trois fronts. Sur le plan diplomatique d'ailleurs, vous savez ce qui se passe à Nairobi, le président ougandais a pris à partie les Congolais et les Congolais ont réagi par l'entremise du ministre des Affaires étrangères. C'est pour montrer que sur le plan diplomatique, eux aussi ne croisent pas les bras. Et récemment, vous avez suivi le président rwandais quand il disait que les Tanzaniens étaient les sympathisants des génocidaires. C'est pour dire que sur le plan diplomatique, ils sont en train de se battre aussi pour convaincre le monde entier que les génocidaires sont au Congo et que les gens qui viennent au Congo pour défendre l'intégrité territoriale de cette république sont alliés aux génocidaires. Vous comprenez un peu? Nous devons nous battre sur tous les fronts, mais pour l'instant, comme les fronts militaires aussi tournent, parallèlement aux fronts diplomatiques, il faut avancer de cette façon-là. Sur le plan politique, il s'annonce des concertations. Nous pensons que là, tous les problèmes seront remis à la surface et les Congolais vont discuter.
Ok, merci beaucoup Clément Mangoubou, Joachim Diana. Entre la solution politique et la solution militaire, quelle est la mieux adaptée pour les problèmes congolais?
Enfin, Gisela a dit tout à l'heure. Vous vous souviendrez, nous n'avons pas la mémoire courte, qu'il y a eu le dialogue intercongolais. Après le dialogue intercongolais, tout le monde était sous gouvernement pendant la transition. Nkunda est sorti, il a créé le CNDP. Mais combien de temps on a mis pour résoudre l'affaire Kunda? Négociation Nairobi 1, Nairobi 2, ainsi de suite, et Mkapa, Obasanjo, pour essayer de retrouver la paix. Conférence de Goma, et finalement, on a signé l'accord du 23 mars 2009. Et voilà que le CNDP, le M23, sort d'un gond, met cet accord de côté, dont une des clauses disait que, quels que soient les problèmes qui viendront dans l'application de cet accord, plus personne ne devra recourir aux armes. Le M23 a recouru aux armes. Mais aujourd'hui, lorsque on doit chercher la solution, négocier la solution politique ou la solution diplomatique, c'est pour nous amener à quoi? Au plan diplomatique, vous vous souviendrez, il y a eu les opérations conjointes. La RDC s'est rabaissée jusqu'à ce niveau-là, a accepté que le Rwandais entre sur notre territoire pour traquer les FDLR qui étaient soi-disant la source de conflit. On a même mis en place des forces conjointes pour surveiller la frontière pendant que ces forces étaient là, la guerre éclate avec le M23. Maintenant, si on va vers les négociations, on va vers les solutions, c'est pour trouver quelle solution. Et quelle sera l'assurance que demain, le M23 ne le violera pas. Mais c'est là où je dis, nous sommes en train de négocier avec des marionnettes, c'est-à-dire nous sommes en train de combattre la fumée et sans toucher au feu. C'est pourquoi on dit que la véritable solution à l'Est viendra de la solution qu'on trouvera avec Kigali. Et ce n'est pas Kinshasa qui doit le résoudre. Si Kinshasa veut le résoudre. On veut que Kinshasa le résolve par la guerre, en déclarant la guerre au Rwanda, mais que la communauté internationale l'accepte. Mais si on ne veut pas que Kinshasa déclare la guerre à l'Ouganda et au Rwanda, mais que la communauté internationale elle-même règle cette histoire de façon diplomatique.
Merci beaucoup Joachim Diana. Et sans transition, nous passons à notre deuxième sujet de ce soir. Le gouvernement de la RDC dit avoir transmis le 25 juillet dernier par des voies diplomatiques d'usage à la République du Rwanda 3 mandats d'arrêt internationaux qui visent 4 de ses ressortissants réfugiés sur le territoire rwandais. Il s'agit d'exploits signés par l'auditeur général des FRDC, officier du ministère public près de la haute cour militaire, le général-major Joseph Pondé Isamboa, en charge des individus poursuivis pour des crimes relevant de la justice militaire. Ces mandats concernent Jean-Marie Runiga, président du M23, le colonel Baudouin Ngarouye, général de brigade autoproclamé du M23, le lieutenant-colonel Eric Badegué, colonel autoproclamé du M23, et enfin le colonel Zimurinda Innocent. Mireille Bukasa Mukendi pour les détails.
Ces 4 responsables du mouvement du 23 mars sont poursuivis pour des faits de constitution d'un mouvement insurrectionnel, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, meurtres, emprisonnement, torture, viol, esclavage sexuel, persécution pour des motifs ethniques, crimes de guerre par torture, enrôlement, conscription et utilisation des mineurs de moins de 15 ans dans les groupes armés. Selon le communiqué signé par le ministre Lambert Mende et diffusé vendredi dans la soirée par les médias officiels, le gouvernement de la RDC dit attendre avec intérêt la réponse du gouvernement du Rwanda conformément à l'accord de coopération judiciaire entre les deux pays, conformément aux engagements contenus dans le point 5 de l'accord cadre d'Addis Abeba et conformément aux dernières recommandations du Conseil de sécurité de l'ONU lors de la réunion consacrée à la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs le 25 juillet 2013.
Ghislain Loboula, 4 mandats d'arrêt internationaux délivrés contre les responsables du M23. Comment est-ce que vous analysez ce geste que le gouvernement de la RDC vient de poser envers le Rwanda demandant l'extradition de ces personnes?
De prime abord, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, est-ce que la RDC et le Rwanda ont déjà signé par le passé un accord d'extradition? Je me suis posé cette question. À ma connaissance, non. Mais, et d'ailleurs, pour soutenir ce point-là, c'est que quand Laurent Kunda est parti au Rwanda, la RDC a utilisé tout le moyen nécessaire pour que Laurent Kunda soit extradé ici. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a bougé. Aujourd'hui, avec Jean-Marie Runiga et ses colistiers, je me dis, si cela ne peut pas être possible, mais il y a un cadre précis, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Et dans cet accord-là, il est bien dit que les parties signataires ont convenu. Donc il y a une convention qui lie les pays signataires. Et ici, en l'espèce, c'est la RDC et le Rwanda. Et je me dis que le Rwanda, aujourd'hui, est dans cette obligation parce qu'une convention devient une loi pour les parties. Et comme c'est une loi pour les parties, et donc le Rwanda doit exécuter. Et je me situe sur ce point-là et je me dis aujourd'hui que la RDC a amorcé cette démarche-là, en tout cas s'il y a bonne foi du Rwanda, et c'est là, ça sera un moyen pour prouver si effectivement le Rwanda tient à ce qu'il y ait une paix à l'Est. Si les Rwandais refusent, si les Rwandais s'obstinent, et donc là nous comprenons directement qu'il n'y a aucun pas qui a été fait dans le sens de parvenir à la paix. Parce que là c'est vraiment un test qui vaut la peine, et je crois que le Rwanda, au regard de cet accord cadre qui lie au fait ce pays-là, je crois que la RDC est sur la bonne voie, quitte à prouver la bonne foi du Rwanda.
Joachim Diana, comment vous analysez cette démarche du gouvernement congolais? Est-ce que cela traduit la réelle volonté de lutter contre l'impunité ou tout simplement c'est un message politique?
Bon, mais message politique, non, mais c'est une façon de montrer à l'opinion que effectivement, voici les usages. Gisela vient de le rappeler, il y a un accord qui lie les deux parties. Et cet accord est précis. Le Rwanda l'a déjà violé en acceptant ce groupe chez lui. Le premier geste qu'il devrait faire, c'est dès qu'il traverse la frontière, il les désarme et les renvoie au Congo. Il ne l'a pas fait. Et le Rwanda a attendu Le gouvernement congolais aurait attendu le Rwanda se dire « bon, il n'a commis aucune faute ». Mais le gouvernement de Kinshasa, en demandant, démontre à la communauté internationale qu'il y a un problème. Mais le problème, nous l'avons déjà eu avec Laurent Kunda. Et il avait suffi que Laurent Kunda soit de l'autre côté pour que d'autres raisons, et dont une des raisons c'est que ce serait un sujet rwandais et que le Rwanda ne peut pas extrader son compatriote. Bon, il resterait maintenant à savoir tous ces gens qui sont sur la liste, ce sont-ils réellement des Congolais ? Ou bien Kigali va-t-il brandir les dispositions de sa constitution qui dit que tout sujet rwandais qui avait perdu sa nationalité pour telle ou telle autre raison, dès le moment où il se trouve sur le territoire rwandais, automatiquement il récupère sa nationalité. Parmi les quatre, n'y a-t-il pas des gens qui vont récupérer leur nationalité?
Mais Joachim Diane, toujours pour vous compléter, est-ce que le Rwanda aussi, de son côté, ne peut pas brandir l'argument selon lequel la RDC n'a pas encore aboli la peine de mort, si nous extradons ces personnes, ils seront exécutés?
Ah ben, mais voilà, c'est aussi, il peut utiliser cet argument-là, que s'il les envoie, mais ces gens-là, ils ont fait plus que la peine de mort, ce qu'ils ont fait au Congo, c'est plus que cela. Et s'ils ne veulent pas les rendre au Congo, qu'ils les rendent à la CPI, comme ils ont fait avec Bosco Tangata, qu'ils le rendent à la justice internationale. S'ils pensent qu'au Congo, ils peuvent être exécutés, qu'ils les envoient, ou alors, le Congo, c'est quand même un pays qui, depuis ces gens, montrent que diplomatiquement, il est un pays moderne. La RDC, toujours dans le cadre des accords, il peut signer les accords pour dire que non, nous les rendons, mais pourvu qu'ils aient un procès équitable, et ainsi de suite.
Oui, Clément Mangoubou, si le gouvernement congolais veut lutter contre l'impunité, pourquoi il initie une démarche sélective et pourquoi ne lance-t-il pas un mandat d'arrêt national contre les dirigeants des différentes rébellions qui sont sur le territoire national? Et même dans l'opinion, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une politique de deux poids, deux mesures?
Oui, confrère, il y a péril à la demeure dans le Nord Kivu, hein, et je crois que tous les groupes armés n'ont pas la même importance que les M23 qui est créé par le Rwanda. Le Rwanda qui est, si je peux emprunter l'expression de mon confrère là-bas, et les gens-là ne sont que des créatures du Rwanda qui en disposent comme ils veulent. Et je crois qu'il faut commencer par le morceau le plus dur. Et le morceau le plus dur, c'est justement les M23. Et il faut, peut-être que, avec les concertations qui viendront, on peut voir dans quelle mesure sont un petit peu ceux qui opèrent à l'intérieur même du pays. À mon sens, c'est pas sélectif, c'est pas sélectif. Je crois qu'il faut d'abord éteindre le feu et chercher maintenant à voir dans la cendre, qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Mais commençons par éteindre les feux. C'est très important, ce n'est pas du tout sélectif, c'est plutôt réaliste.
Mais Clément Mangoubou, quelles sont les chances de réussite de cette démarche initiée par la RDC?
Les chances sont maigres, dans la mesure où, comme je l'ai dit, ce sont des créations du Rwanda et de l'Ouganda. Et c'est le Rwanda et l'Ouganda qui décident d'en faire ce qu'ils veulent. Donc ici, le Rwanda va... La tactique, c'est quoi? On prend des gens, on les fabrique, on les pressure comme des citrons et à la fin, on les rejette. Et on recommence. Si le Rwanda, un jour, cède ces gens-là, c'est qu'il y a un plan B. Et ils s'attendront à faire autre chose, parce que, comme je l'ai dit toujours, le Rwanda a plus d'un tour dans ses manches. Donc, on doit être prudent, on doit plutôt être prudent, tout à fait prudent, et voir ce qui va advenir. Parce que le Rwanda, au stade actuel, ne peut pas être disposé à extrader ces gens-là.
Oui, Joachim Diana Gikupa, selon vous, alors, quelles sont les chances et réussites de la démarche de la RDC?
De toutes les façons, je ne vois pas le gouvernement rwandais envoyer ces gens à Kinshasa pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avons un gouvernement voyou de l'autre côté. Donc il ne respecte rien du tout. Donc il ne peut pas respecter un accord qu'il a signé récemment où l'encre est encore fraîche sur la signature de Kagame. Ça c'est un. De deux, Kigali, c'est que ces gens ici, si on leur fait un procès, c'est son propre procès qu'on va faire. Donc il n'aimerait pas envoyer son alter ego, lui-même, son ombre, pour qu'on vienne juger son ombre. C'est, si on condamne l'ombre, c'est lui-même qui sera condamné. Donc Kigali ne le fera pas parce que Kigali n'a jamais rien respecté du tout.
Justin Luboula, que pourra-t-il alors se passer si le Rwanda refuse d'extrader ces personnes?
Je crois que dans mon intervention, j'ai dit qu'il s'agissait de prouver la bonne foi du Rwanda si effectivement il intègre l'esprit de l'accord cadre. Mais je voudrais un peu peut-être balayer ce que Monsieur Diane a dit par rapport à la peine de mort. Par rapport à la peine de mort, si ça peut être un argument, j'ai dit non, ça, parce qu'ici chez nous, la peine de mort, si vous allez à la prison centrale de Makala, il y a des gens qui sont condamnés à mort, dont l'exécution n'est jamais arrivée. Et donc, il y a un moratoire. Ils seront soumis aussi au même principe que les autres, parce qu'ils sont des malfrats. Et donc, quelles sont les chances?
C'est un moratoire qui peut être élevé à tout moment.
Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, il y a un moratoire, et donc il y a des exécutions qui ont été prononcées, mais qui n'ont pas été... En fait, des peines qui ont été prononcées, mais qui n'ont pas été exécutées. Et donc, nous sommes sur cette ligne-là. Et quelles sont les chances aujourd'hui que nous donnons à la réussite de cette démarche? Eh bien, c'est un test. Nous voulons voir la bonne foi du Rwanda, si effectivement le Rwanda tient à ce qu'il y ait paix dans la partie Est. Si le Rwanda refuse, donc nous tombons pratiquement dans la logique avec Laurent Nkunda, avec Jules Moutebousi, aujourd'hui, qui sont de gamins qui sont bien protégés par le Rwanda.
Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore tester la bonne foi du Rwanda aujourd'hui?
Mais oui, parce qu'il y a un accord cadre. Ça nous permet de jauger la bonne volonté. Est-ce que...
Un accord qui est violé, bien sûr.
Effectivement, il y a violation, mais nous avançons. Alors, si on estime aujourd'hui que il y a un accord cadre qui est régulièrement violé, et quelle est la meilleure solution? Et donc, l'aspect militaire doit intervenir. Et c'est là que je me pose une petite question. Je me dis, mais est-ce c'est pas parce que les FRDC sont en train de gagner du terrain que aujourd'hui la MONUSCO commence un peu à intervenir? Est-ce une façon de décourager les FRDC? Donc, qu'on nous laisse évoluer comme ça pour voir un peu ce que ça va donner.
Oui, Clément Mangoubou, nous sommes déjà à la fin de cette émission. En une minute, vous pouvez donner peut-être une petite conclusion par rapport à nos deux sujets du jour.
Bon, je demande au gouvernement, à la partie congolaise, d'être vigilant, mais d'évoluer aussi sur tous les trois fronts annoncés par les présidents de la République. Je crois que ça va être une bonne chose pour nous. Parce que si on baisse la garde d'un côté, le Rwanda pourrait profiter d'un autre et nous faire du mal, comme toujours.
Joachim Diana, votre conclusion?
Ma conclusion est que les Congolais, les acteurs politiques, doivent savoir que la politique de dire que lorsque les lions entrent dans le village et qu'ils font le massacre dans le bétail, c'est pour eux une bonne chose parce qu'ils vont avoir de la viande. Je pense que c'est cynique, était le politique, de vouloir exploiter la situation à l'est de souffrances atroces des populations qui dorment, vous connaissez comment il fait froid là-bas, les gens qui dorment à la même étoile, à la belle étoile, dans des tentes telles qu'on les voit comme ça. Et vous êtes à Kinshasa, tout bonnement, vous voulez utiliser cette situation-là comme pour faire votre discours politique, comme votre stratégie, comme votre moyen de pression pour que vous puissiez avoir le pouvoir. Et je pense que aux négociations qui vont venir, il faudrait qu'effectivement, sur ce point-là, qu'il n'y ait rien à discuter et que d'abord, qu'on fasse la cohésion autour que cette guerre se termine. Et puis après, on peut se battre politiquement, on aura tout le temps.
Justin Luboula, en une minute, votre conclusion.
Oui, moi, j'ai lancé un appel au FRDC de prendre toutes les dispositions nécessaires pour verrouiller les terrains qui sont déjà conquis et d'éviter à ce que les M23 se déploient sur d'autres zones pour essayer d'opérer. Et à la MONUSCO, je demande de faire franc jeu, de ne pas à tout moment se rétracter sur certaines positions, parce qu'il faudra une action concertée à la fois de la MONUSCO, par la brigade d'intervention, à la fois des FARDC, pour que finalement qu'on mette fin à cette situation à l'Est qui n'a que trop duré et qui fait des dégâts énormes sur la vie des populations.
Je vous remercie et c'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais Ghislain Louboula, rédacteur en chef du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Joachim Diana, directeur de publication et éditeur du journal La Colombe qui paraît également à Kinshasa. Et Clément Mangoubou, éditeur du journal Mwangaza, un hebdomadaire qui paraît à Kisangani en province orientale. La partie technique de cette émission était assurée par William Lungamba. Guimat était à la réalisation et Samuel Kachak vous a présenté cette émission sous la supervision de Julien Nyamouini. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end à tous sur Radio Okapi.